Votre grand journal du soir sur Europe 1, vous écoutez Mathieu Béliard.
Bonsoir Sonia Mabrouk.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Votre invitée, on la découvre depuis quelques temps dans les médias, Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise aux Européennes, connue auparavant pour son travail contre l'augmentation des inégalités ou encore sur les paradis fiscaux.
Bonsoir Manon Aubry.
Bonsoir.
Un avertissement, celui de la Cour des comptes qui s'inquiète aujourd'hui du dérapage du déficit de la France après notamment les 10 milliards d'euros de mesures annoncées en pleine crise des Gilets jaunes. La Cour des comptes est dans son rôle, elle pointe entre guillemets des cadeaux pour les Gilets jaunes.
Je pense que la Cour des comptes a oublié de pointer les cadeaux, en revanche pour les plus riches, que le gouvernement d'Emmanuel Macron s'est empressé de faire, tout juste arrivé au pouvoir. On se souvient tous, et c'est le sens de la mobilisation des Gilets jaunes, du cadeau que représente l'impôt de solidarité sur la fortune, 3 milliards qui sont redonnés à une infime minorité de gens, 3 milliards d'euros par an. On se souvient de la flat tax, c'est la baisse de cet impôt sur le capital, là aussi payé par les plus riches, 2 à 3 milliards d'euros.
C'est pas un peu une réponse pavlovienne?
Vous voyez, je trouve que c'est un peu à géométrie variable. Je pense que quand il s'agit de faire des cadeaux aux plus riches, on n'entend pas la Cour des comptes, alors que ça a un coût énorme pour la société, donc pour nous tous. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand l'impôt des plus riches baisse? L'État, il a deux solutions. Soit il augmente l'impôt des plus pauvres, c'est en partie ce qu'il a fait avec la hausse de la CSG, soit l'État baisse dans les dépenses et les services publics, c'est aussi en partie ce qu'il a fait. Donc je pense que la Cour des comptes pointe là, en fait, une question de l'équilibre budgétaire, mais sans le pointer via le bon prisme qui est celui finalement, c'est un choix de société plus large.
Mais la réduction des dépenses publiques, c'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet, mais qui souvent...
Vous n'êtes pas pour tout laisser filer les déficits, la dette, notre réputation au niveau budgétaire.
Si vous voulez, je pense que la question de la dette et la question budgétaire est souvent posée en mauvais termes. On compare des poires et des patates, on compare des choses qui ne sont pas comparables, comparer la dette annuelle au PIB par exemple. Et puis, vous savez, aujourd'hui, et au moment de la campagne présidentielle, quand la France Insoumise avait chiffré son programme, ils avaient calculé à ce moment-là, parce que je ne faisais pas partie de la France Insoumise.
C'était un contre-budget là qui, pour le coup, laissait filer le déficit.
Non, parce qu'à la fin du quinquennat, il était prévu de ramener le déficit à moins de 3%.
C'est une promesse.
Mais vous savez, si on veut investir dans la transition écologique, si on veut lutter contre les inégalités, ça nécessite un investissement. Vous savez, on peut essayer de se serrer la ceinture autant qu'on veut, si on n'a plus de planète dans 50 ans ou dans 100 ans, on dira attendez, on a respecté les règles du déficit imposées par l'Union Européenne. Donc je pense qu'il faut un peu de sagesse et de responsabilité aussi vis-à-vis du monde qui nous entoure et de la planète qui nous entoure.
Le président de la République, Manon Aubry, poursuit sa tournée dans le cadre du grand débat national, un débat très critiqué par l'opposition et notamment la France Insoumise. Et pourtant, Emmanuel Macron remonte, semble-t-il, dans les sondages. Ça veut dire, selon vous, qu'une partie des Français estime qu'il ne s'en sort pas si mal dans cette période?
Vous savez, les sondages,
pour les autres.
Non, mais vous le dites vous-même, c'est extrêmement fluctuant. Mais non, je vais pas prendre la défense de tel sondage ou de tel sondage. Moi, j'ai envie qu'on puisse parler du fond et qu'on puisse qualifier, chacun se fera son avis, ce qui se passe avec ce débat. Que fait gouvernement Emmanuel Macron? Il y a le mouvement des Gilets jaunes, il tente de faire des mesurettes qui ne répondent pas aux aspirations économiques et sociales. Deuxième étape, il tente de faire un débat et Chantal Jouanneau, qui était pressentie pour mener ce débat, reconnaît elle-même que c'est une opération de communication politique, puisque les questions qui sont posées sont extrêmement étroites.
Pourquoi un procès d'intention? Pourquoi ne pas attendre la fin de ce débat?
Ce n'est pas un procès d'intention. Regardez les questions de manière concrète. Il y a 4 volets. Sur ces questions qui sont posées, je prends sur le volet fiscalité, à aucun moment est posée la question de la hausse des impôts les plus riches. À aucun moment est posée la question de la hausse du SMIC. Donc évidemment que nous sommes pour débattre.
Vous
nous
pensez
sommes tout ouverts au
les
débat.
Les centaines d'élus, mais les centaines de citoyens, les centaines de responsables associatifs n'ont pas pu poser cette question? On leur a pas laissé le choix.
Je vous invite, on va aller ensemble à la fin de cette émission sur le site du Grand Débat et je vous invite à regarder si est-ce que la question de la hausse des impôts des plus riches, on peut répondre à cette question quelque part.
On aurait bâillonné les élus.
Non, mais c'est facile de discuter avec des élus. Je vous fais remarquer au passage qu'ils ne discutent à aucun moment avec des citoyens. Et je fais remarquer aussi au passage que des Gilets jaunes ont créé un site alternatif du débat qui s'appelle levraidébat.fr, d'ailleurs fait par la même entreprise qui fait le débat pour le gouvernement, et là avec des vraies méthodes participatives, et lesquelles méthodes permettent d'ordonner par exemple les réponses, et qui permettent juste pour finir là-dessus, parce que c'est un élément important. Oui. Un vrai débat, ça s'organise dans des réelles conditions de participation citoyenne, avec des questions ouvertes.
Vous pensez,
et ce n'est pas le cas,
que Jean-Luc Mélenchon va dire cela, Emmanuel Macron, il va être reçu dans quelques minutes. Mm-hmm. On se pose la question, parce que la dernière fois à Marseille, sans vouloir faire de mauvais esprit, mais face au président, il n'a pas osé réitérer ses critiques, Jean-Luc Mélenchon.
Vous savez, ils se sont croisés à Marseille. Nous sommes dans un cadre républicain. Mais vous auriez crié au scandale si jamais Jean-Luc Mélenchon s'était énervé en disant « La France est en colère, il faut que vous écoutiez la France ». Par contre, là, pour être clair, Jean-Luc Mélenchon, il va arriver avec un message ferme à Emmanuel Macron pour lui dire « La France est en colère, les citoyens et le peuple sont en colère, il faut apporter des réponses ». Et ces réponses, elles sont de l'ordre économique et social d'une part, sur la hausse du SMIC, sur la justice fiscale, et démocratique d'autre part. Donc si vous êtes prêt à avoir un vrai débat de société, ayons-le autour d'une
constitution. La France est en colère, mais pourquoi cette France ne voit pas, ou une partie de cette France ne voit pas Jean-Luc Mélenchon comme une réponse ou une solution? Apparemment dans les sondages, et là encore, mais quand même, votre score dans les sondages ne frémit pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est votre stratégie vis-à-vis des Gilets jaunes? Est-ce que c'est l'attitude de Jean-Luc Mélenchon?
Je pense qu'il y a deux éléments de réponse là-dessus. Le premier, c'est que pour moi, une des difficultés réelles auxquelles on fait face est de vraiment avoir un débat d'idées à un débat de fond. Souvent, l'amalgame est fait à tort et qui me met en colère entre le Rassemblement National et la France Insoumise, par exemple. Et on a très peu de temps d'antenne en général pour dire, attendez, nous, on est véritablement pour l'augmentation du SMIC, voici la manière dont on le ferait, là où le Rassemblement National n'est pas pour l'augmentation du SMIC. C'est un exemple.
Mais pourquoi vous avez besoin de vous démarquer? C'était pas ma question.
Non, mais parce que votre question, c'est pourquoi ça ne profite pas dans les sondages à la France Insoumise. Je vous dis, une des difficultés, de manière sincère, c'est que quand moi je suis interrogée sur les plateaux, on a du mal à avoir suffisamment de temps d'antenne pour parler des vraies propositions de fond, de celles que l'on porte, qui font pourtant écho aux revendications des Gilets jaunes.
C'est ce que vous allez apporter d'ailleurs dans cette campagne des européennes. Je vais juste rappeler à nos auditeurs, peut-être qui ne vous connaissent pas, que vous venez du monde humanitaire, associatif, vous étiez porte-parole d'Oxfam et... Chez la France Insoumise, il y a plusieurs cadres militants qui disent que vous allez bousculer les choses. Vous allez vraiment bousculer?
Je vais essayer de les bousculer. Tout ce qu'il faut bousculer pour avoir un débat d'idées. Moi, vous savez, j'ai beaucoup hésité avant de m'engager en politique. Je suis une citoyenne comme vous, comme nous tous ici. J'avais jamais participé à une campagne politique, assisté à un meeting, et j'ai envie d'y aller avec les tripes, avec les convictions pour défendre un projet de société. Et j'ai envie que ce débat sur les idées prime sur le débat de petites phrases, prime sur le débat de personnes. Et c'est parfois difficile parce que dans mon petit mois d'expérience politique, on m'interroge beaucoup sur l'attitude des uns et des autres, les phrases des uns et des autres, alors que je pense que pour refaire croire en la politique, pour réenchanter en la politique, il faut donner de l'espérance.
Et l'espérance, la politique,
elle s'incarne dans un projet politique.
Un projet politique et une personnalité politique, forcément. Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui vous a choisi, même si vous avez hésité.
Je me permets de corriger, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui m'a choisi, mais bien le mouvement et un comité électoral avec des gens tirés au sort du mouvement.
Oui, c'est collectif, mais on imagine qu'il a quand même eu son mot à dire. En tous les cas, il est à la une de l'Obs cette semaine. Vous avez vu cette une?
Oui, j'ai vu cette une. On va
la décrire pour nos auditeurs. On y voit un Mélenchon version Robespierre avec ce titre « Mélenchon, le malade imaginaire, sa dérive populiste, son autorité contestée, ses ennuis judiciaires ».
Vous voyez,
ça vous donne toujours envie d'y aller?
C'est exactement la raison pour laquelle je suis en colère aujourd'hui contre la manière dont fonctionne le monde politico-médiatique. Je passe plus de temps à me justifier sur Jean-Luc Mélenchon, je passe plus de temps à commenter des histoires qui sont ressassées parce que l'Obs ne sort rien de nouveau et au passage essaie de violer le secret de l'instruction judiciaire, ce qui est quand même assez important dans un temps.
Malheureusement, le secret de l'instruction est
mais
violé
je le regrette,
à maintes fois
et
pour
vous,
beaucoup.
Vous voyez c'est ça qui moi m'a fait hésiter et en même temps je me dis c'est parce que j'ai envie d'être au-dessus de ça, c'est parce que j'ai envie de porter des convictions fermes et un projet politique que je suis là et que je serai encore là et à chaque fois qu'on m'interrogera sur ces questions j'essaierai de ramener le débat à un
vous
débat
êtes habile
d'idées.
En tout cas vous n'avez pas répondu à la question.
Non, je vous ai répondu très clairement sur l'Obs, il ne sort pas de nouvelles histoires.
On va conclure, Manon Bry.
Voilà,
et si
je
le grand saut dans le grand bain politique ne vous plaît pas, vous partirez comme vous êtes venu?
Oui, vous savez...
Avec vos convictions et...
J'avais jamais envisagé de faire de la politique de toute ma vie. Je me retrouve là, c'est une continuation logique de mon engagement associatif, vous l'avez dit, mais je ne m'envisage pas comme une professionnelle de la politique et j'ai un métier à l'origine
vous
et j'y reviendrai. Pardon?
Un peu en même temps.
C'est quoi le...
Bah comme les députés de La République En Marche, société civile, politique.
Il y en a beaucoup qui avaient fait de la politique avant, moi je me compare pas à eux, je suis comme je suis, avec ma spontanéité, et oui, si. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il faut se donner les moyens d'essayer de changer les choses, et beaucoup de choses
certains
se passent au Parlement européen.
En un mot, un député, Mathieu Orphelin, qui quitte ce soir la majorité, vous le connaissez bien, je crois.
Oui, Mathieu Orphelin, je le connais parce qu'il était à la FNH avant, et j'ai travaillé aussi avec lui, quand je faisais du plaidoyer, j'ai essayé de l'influencer, et j'avais notamment tenté de faire en sorte que La République En Marche adopte la transparence sur les écarts de salaire pour lutter contre les écarts de salaire en entreprise. Mathieu Orphelin avait tenté de défendre la mesure puis avait lâché prise au dernier moment. Je voyais bien les pressions qui s'exerçaient sur lui. Je pense que les masques tombent aujourd'hui et que les difficultés et aujourd'hui la gronde vient aussi de l'intérieur de La République En Marche et le gouvernement devrait l'entendre.
Les pressions, on verra si vous résistez également aux pressions du monde politique.
En tout cas, j'en ai pas peur.
Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce soir.
La prochaine fois, on se parle des élections européennes.
C'est ce qu'on a fait quand même, mais vous reviendrez avec
du
plaisir
projet.
Comme d'autres têtes de liste à cette antenne.
Vous le faites à toutes les interviews ou
non,
fait hier matin
en fait,
sur France Inter.
En fait, c'est tant que vous savez, moi je suis tête de liste pour une élection et les élections européennes sont une élection qui sont importantes, un scrutin majeur. Je pense qu'il faut parler du débat de projet. C'est comme ça qu'on réenchantera la politique. Donc je le répéterai autant de fois que nécessaire.
Merci Manon Aubry, merci Sonia Mabrouk. Il est 19h22.